Investigation rediffuse ce soir une enquête consacrée à la montée du Vlaamsbelang. Bonjour Baptiste Dupin.
Bonjour.
Vous signez cette enquête avec Stéphanie De Smet. Vlaamsbelang, de la victoire à la menace, c'est son titre. Un documentaire réalisé il y a 4 ans, diffusé une première fois en mai 2020. Pourquoi est-il encore pertinent aujourd'hui?
Alors, je sais que c'est pas très vendeur de révéler la fin d'une enquête pour vous convaincre de la regarder, de la spoiler, de la divulgâcher, comme on dit en bon français, mais je vais le faire quand même. Le documentaire, il se termine par cette phrase: le Vlaamsbelang pourrait bien devenir le premier parti du pays. C'était l'une des conclusions de notre enquête en mai 2020. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Que tous les sondages prédisent l'arrivée en tête du Vlaamsbelang au soir des élections du 9 juin 2024. Quand on a débuté notre enquête, le Vlaamsbelang venait d'enregistrer une très forte progression aux élections de 2019 et les premiers sondages indiquaient que l'extrême droite pourrait devenir le premier parti de Belgique en dépassant la N-VA. On avait alors envie de comprendre comment l'extrême droite, qu'on croyait à peu près disparue en 2014, avait pu faire un pareil retour. Comprendre sa stratégie, montrer aussi ce qu'est exactement cette extrême droite flamande, finalement assez méconnue parfois côté francophone. Et étant donné les sondages actuels, ce besoin de compréhension, de montrer le vrai visage de cette extrême droite flamande reste donc probablement nécessaire.
Vous avez donc rencontré différentes personnalités d'extrême droite dans le cadre de cette enquête, et ce succès du Vlaamsbelang, il est notamment dû à la stratégie de communication du parti.
Oui, une stratégie qui repose sur deux grands piliers: la dédiabolisation d'abord, la normalisation du parti d'extrême droite, et puis les réseaux sociaux. Dès son arrivée en fonction dans le parti, le président Tom van Grieken a lissé la communication du Vlaamsbelang pour le rendre plus acceptable auprès d'une plus grande partie de l'opinion publique. Mais derrière cette image de gendre idéal qu'il cultive, il s'agit toujours d'un parti d'extrême droite tout à fait classique, avec un discours basé essentiellement sur le rejet de l'étranger. Ce que certains élus du Vlaamsbelang n'ont d'ailleurs pas hésité à nous dire au micro, comme le député Philippe de Winter, connu pour son radicalisme. Je lui avais demandé en quoi le parti est désormais différent.
Le président, par exemple, il porte la cravate et moi plus. Mais nous racontons la même chose. Je dis notre peuple d'abord, ils disent d'abord nos gens. L'emballage a bien changé, mais le contenu est resté identique. Voilà pourquoi nous soutenons Tom van Grieken.
Oui, cette phrase, hein, l'emballage a changé, le contenu est resté identique. On comprend donc que la normalisation du parti n'est que cosmétique. L'autre axe de cette stratégie de communication, vous le disiez, ce sont les réseaux sociaux.
Oui, dans cette enquête, nous nous sommes aussi plongés dans les contenus partagés par le Vlaamsbelang sur Facebook, qui participent de cette dédiabolisation. Et on avait calculé les montants gigantesques investis à l'époque par le parti pour rendre ces publications plus visibles, pour les sponsoriser. Au moment de tourner ce documentaire, début 2020, le Vlaamsbelang avait dépensé 600 000 euros après la campagne de 2019 en l'espace de quelques mois. Or, le parti d'extrême droite flamande continue dans cette lignée. Il reste le parti qui dépense le plus pour sa communication sur Facebook, puisqu'aujourd'hui, il en est à plus de 4 millions dépensés depuis notre enquête. Et ce n'est pas anodin. Il s'agit de la clé de voûte de la stratégie du Vlaamsbelang pour briser le cordon sanitaire et espérer entrer dans des majorités. C'est en tout cas ce que nous expliquait le président du parti, Tom van Grieken, lors de notre enquête.
D'après moi, il y a plus qu'un cordon. Il y a le cordon sanitaire politique, il y a le cordon sanitaire médiatique, et le troisième cordon, c'est le cordon social. Avant, on partait du principe qu'il fallait briser le cordon politique pour arriver au pouvoir, ce qui amènerait à la rupture du cordon médiatique, et alors seulement les gens oseraient avouer qu'ils soutiennent le Vlaamsbelang. Avec la puissance du web, on a inversé la logique. On a pu diffuser notre message et les partager sur les réseaux sociaux. Alors vous commencez à vous dire, ah, un voisin, votre collègue, votre patron, ils soutiennent aussi le Vlaamsbelang? Alors la gêne à se déclarer Vlaamsbelang disparaît. La dernière étape, c'est accéder au pouvoir. Et cette phase sera enclenchée en 2024.
Oui, on entend bien ici toute la stratégie mise en place. Arriver au pouvoir en 2024, c'est l'ambition affichée du Vlaamsbelang.
Effectivement, et 4 ans après cette interview, on doit bien constater que cette question de la rupture du cordon sanitaire est le sujet qui occupe la plupart des observateurs et analystes politiques du nord du pays. Alors il existe encore évidemment de nombreuses barrières à franchir pour que l'extrême droite arrive au pouvoir au niveau flamand, même si elle gagnait, si elle gagne les prochaines élections. Mais au vu des derniers sondages et dernières enquêtes d'opinion, on n'a probablement jamais été aussi proche de cette éventualité.
Baptiste, dans la deuxième partie de cette enquête, vous exploriez aussi la face plus sombre de cette montée de l'extrême droite, la libération du racisme, les menaces, les risques de violence.
Oui, des risques désignés dans différents rapports officiels qui ne sont pas liés structurellement au Vlaams Belang, mais qui s'inscrivent dans cette mouvance extrémiste de droite avec des mouvements proches du Vlaams Belang, comme le Voorpost qui assure la sécurité du parti, qui inquiétait alors de plus en plus les autorités, leurs manifestations plus nombreuses, plus appuyées, une inquiétude dont fait part dans notre reportage Sophie Lévert, qui est experte au sein d'une zone de police du Limbourg.
Il y a une série de groupements actifs proches de l'extrême droite. Cela va de partis politiques jusqu'à des groupes d'activistes, comme entre autres le Voorpost.
Vous évoquez des manifestations, des distributions de tracts. Est-ce que ça représente réellement un danger ?
En soi, la liberté d'expression et d'application, c'est comme ça. Ça ne débouche pas d'office sur de la violence, mais dans le passé, il est déjà arrivé que ce genre de groupe devienne violent. On tente donc de bien suivre cela pour éviter que ce pas ne soit franchi. Si on regarde ce qui se passe à l'étranger, il y a déjà eu des mouvements d'extrême droite qui ont basculé dans la violence. On ne peut certainement pas exclure ce risque.
La principale crainte de cette experte était alors qu'un individu isolé et radicalisé ne passe à l'acte.
Et un an après la diffusion de ce reportage, éclate l'affaire Jürgen Konings.
Ben oui, vous vous souvenez peut-être de cette menace terroriste qui a donné lieu à une gigantesque chasse à l'homme dans le Limbourg d'ailleurs. Ce militaire, ex-membre du Belang et inspiré par des théories de droite radicale, avait volé des armes, menacé de mort Mark Van Ranst, le célèbre virologue qui révélait dans notre documentaire faire déjà l'objet de menaces régulières des milieux d'extrême droite. C'était avant qu'il ne soit médiatisé par la crise du Covid. L'interview avait été enregistrée quelques jours avant que la pandémie n'éclate en Europe. Les craintes évoquées dans notre enquête se sont donc avérées réelles. Aujourd'hui encore, les violences extrémistes de droite restent l'une des préoccupations de la sûreté, derrière les menaces djihadistes et les risques d'ingérence étrangère. Dans son dernier rapport, l'OCAM écrit que 5% des faits menaçants en Belgique sont liés à l'extrême droite.
Donc si je comprends bien, Baptiste, vous êtes un peu le Nostradamus de la politique flamande avec ce reportage. Une enquête qui reste donc d'actualité, à voir ou à revoir, ce sera à 20h15 dans Investigation sur la Une aujourd'hui.
Ouais, et on précisera peut-être aussi que donner la parole à des personnalités d'extrême droite, ce n'est pas nécessairement rompre le cordon sanitaire médiatique qui est toujours d'application,
Il faut que ce soit encadré.
Il faut que ce soit encadré, ça ne peut pas être en direct.
Merci beaucoup, Baptiste, pour toutes ces explications.